Vous écoutez France Culture.
Surpris par la nuit.
État d'art par Marie Duboucher. Ce mois d'avril révèle des visages et des corps sur le fil de la peinture et de la sculpture. Visages de saltimbanques, corps de trapézistes, autoportraits de l'artiste en clown défilent dans la grande parade au Grand Palais. L'ours, le rhinocéros et la poule, peints et sculptés par Jacques Barry, paradent eux aussi à la galerie Artemisia. L'exposition « Moi », autoportrait du XXe siècle, présentée au musée du Luxembourg, fait écho au Grand Palais et certains tableaux pourraient passer d'un lieu à l'autre. À la galerie Templon, toujours à Paris, Gérard Garousse se confronte également à la question de l'autoportrait et du portrait, représentation de soi et des autres dans un espace inventé, intérieur et psychologique, qui permet encore une fois pour le peintre d'interroger avec joie la place de la peinture et de son sujet aujourd'hui. Nous ne quittons pas la question du portrait en se retrouvant face aux silhouettes immobiles et hiératiques du sculpteur contemporain Christian Lapi à Lausanne, galerie Alice Paoli. En pleine préparation de son exposition qui sera présentée à la galerie Alice Paoli à Lausanne jusqu'au 1er mai, nous avons rencontré le sculpteur Christian Lapi dans le chantier de son atelier extérieur à Val-de-Velle, dans la campagne des environs de Reims. Donc ces grands troncs d'arbres, Christian Lapi, ce sont des chênes.
Ce sont des chênes que j'ai achetés dans la forêt pour cette série que j'ai achetée dans les Ardennes, spécialement pour une pièce. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allé acheter des arbres en fonction d'un projet. Et j'ai choisi mes arbres en fonction de mon projet, sur une coupe. Mon travail consiste à utiliser ces chênes de façon la plus simple. Et j'aime avoir un aspect brut quant au résultat. Et pour l'obtenir, je fends les chênes sur leur longueur. Là, on est en face de chênes qui font 6 mètres de long, qui font entre 80 et 1 mètre de diamètre. Et il faut pouvoir les fendre à la main. Pour pouvoir fendre des chênes à la main de cette dimension, il faut que ce soit des chênes dits à merin, c'est-à-dire qu'on utilise aussi dans la tonnellerie, c'est-à-dire qu'ils ont un fil en longueur, pas de nœud, et qu'on puisse fendre. Donc on est obligé de les choisir.
Et alors là, on voit autour de ces grands troncs de chênes des sculptures qui sont soit allongés sur le sol, couchés au sol, soit qui se tiennent debout.
Alors là, on est dans la partie extérieure de l'atelier. Si elles sont couchées, c'est parce qu'elles viennent d'arriver d'un traitement que je leur fais subir pour qu'elles puissent résister à l'extérieur. Dans les étapes de mon travail, il y a donc l'achat des chaînes, le choix. Ensuite, il faut les fendre. Je les sculpte comme on peut le voir. Et pour ceux qui connaissent mon travail, je les sculpte à la tronçonneuse, je découpe une forme très très simple, très sobre, hein, qui n'a aucune particularité en fait. On ne voit ni regard, ni visage, c'est une silhouette, c'est plus une ombre ou une silhouette, même moins qu'une silhouette, peut-être plus une ombre qu'autre chose. Et une fois que ces sculptures sont taillées en groupe, pour constituer des pièces que je dois installer, je leur fais faire subir un traitement en usine avec de l'huile de lin sous vide pour obtenir une pérennité de la pièce. Donc les pièces qui nous entourent sont des pièces qui viennent de subir ce traitement et qui vont être exposées prochainement.
En même temps, donc, ces sculptures, ce sont effectivement des ombres ou des silhouettes, mais on sent une présence très forte. Elles sont véritablement habitées et on a l'impression d'un corps vivant, quand on se promène comme ça dans le paysage et qu'on les voit surgir au milieu des arbres.
Oui, c'était l'un des objectifs de ce travail quand je l'ai commencé il y a 10 ans, c'était de leur d'avoir une sculpture installation avec une forte présence, pratiquement pas d'identité par rapport à un auteur ou par rapport à une culture, mais une forte présence, vraiment comme des ombres qui nous accompagneraient, des compagnons ou des miroirs de nous-mêmes. Ça prend pour moi plusieurs significations. Je pense que si cette impression d'être vivant, éventuellement invité, ça vient du fait que j'utilise un arbre. Et donc, on le ressent. On ressent le vivant à travers l'objet.
Oui, parce que même si c'est sculpté, on sent que vous essayez de garder la forme et la présence naturelle du tronc.
Exactement. Alors oui, je fends l'arbre et la façon dont il se fend, on voit là autour de nous, il y a quelques arbres fendus. C'est l'arbre qui, une fois fendu, donne la forme de la sculpture. Et en le redressant, j'ai à ce moment-là le départ d'une silhouette. Et j'esquisse vaguement une tête et qui est là juste pour signifier que c'est une silhouette qui pourrait être humaine, mais c'est juste pour signifier. Et c'est en fait l'arbre naturel qui donne la forme, c'est pas moi. Après l'avoir fendu, je ne retouche jamais. L'arbre n'est jamais retouché.
Oui, il y a une taille directe, brute.
Plus que directe, c'est arraché, puisque j'enfonce des coins métalliques à la masse sur toute la longueur du tronc, et le tronc s'élargit, et à ce moment-là, j'ai une forme complètement brute. C'est plus que de la taille directe, il n'y a pratiquement pas de taille même. L'arbre est arraché en deux. Parce que ce qui m'importe le plus, là on est dans l'atelier, donc les pièces sont, ou comme vous le disiez, soit couchées, soit debout. Quand je les installe dans un espace, en fait c'est l'espace qui devient l'objet artistique. Il y en a au moins deux toujours, assez rarement, seul, exceptionnellement seul. Et c'est l'espace qui est créé entre les deux qui devient un espace mental et un espace artistique. Et cet espace que je fabrique à la demande, c'est toujours suite à une demande. C'est-à-dire qu'on me sollicite. C'est pas moi, je ne décide jamais de faire une œuvre quelque part. C'est toujours soit un groupe ou un particulier, on en parlait tout à l'heure, qui décide de m'inviter à faire une installation pour lui ou pour le groupe. Parce qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, il y a un problème. Il y a un problème soit sur le terrain, soit à la synagogue de Salzbourg, on peut imaginer le problème. C'est simple à comprendre en Allemagne. Mais ça peut être un problème, parfois même social ou affectif.
Donc un problème social ou un malaise psychologique, il y a une solution spatiale.
Il y a une mise en évidence dans... Je ne suis pas un guérisseur non plus, hein. Il ne s'agit pas de ça. Mais... Je me faufile à travers tout cela, j'ai aucune prétention et aucune spécialité, mais il y a un petit peu comme ça, un petit peu d'ethnologie, un petit peu de sensibilité, un petit peu de... Et on se rend compte que l'espace est très très important. En fait, moi j'ai construit mon travail sur une question d'espace en Champagne. Cet espace qui était bouleversé par les guerres, la première guerre mondiale qui était le début de la barbarie du 20e et du 21e siècle. Vous venez de le traverser en partie en venant de Paris. C'est un superbe jardin entretenu. Vous passez du vignoble à la culture. C'est un green pour jouer au golf, quoi. On peut pas imaginer une seconde la violence si jamais on creusait un peu. Mais moi, si je creuse dans mon jardin, je trouve des grenades. Dans la belle rivière, vous voyez, on a trouvé une fois 120 grenades dans la rivière. Il y a quelques années, on trouve encore des balles, des bouts d'obus constamment. Donc, c'est pas révélé. Donc, c'est cette notion de révélateur, voilà. Plus que je ne prétends pas arranger les choses, mais de les mettre en valeur, les révéler, oui. Frotter la surface un peu. Et ça surgit. Donc, tout ça joue ensemble.
Donc, la position debout de vos sculptures, c'est finalement ce qui...
Surgit
oui. Et ce qui est profondément enraciné dans le sol.
Voilà, c'est pour ça aussi qu'elles sont noires, pour aussi donner cette impression d'enracinement très ancestral, pour dématérialiser un peu l'arbre, qu'on ne reconnaisse pas l'essence de l'arbre, et sont comme des bornes, mais des bornes mentales, quoi. Je veux ensuite que cette œuvre, elle surgisse là, comme si elle avait été là de tout temps, comme si elle était là bien avant nous, et qu'elle serait là bien après nous. C'est pas une envie de durer dans le temps, mais quelque chose d'immuable qui nous constituerait. Et ça, c'est le rapport que j'ai avec les commanditaires. Et ce qui m'importe après, c'est par observation, je me suis rendu compte que le visiteur ou le passant, qui est absolument au courant de rien, lui fait sa propre projection sur l'œuvre. Il s'invente son propre imaginaire, il y trouve ses propres pistes.
Il y a un rapport évident entre votre sculpture et l'architecture, au fond.
Il y a effectivement il y a un rapport. Et souvent, j'utilise des modules d'architecture. Par exemple, vous reparlez de cette pièce en Afrique ou ce que j'ai fait au Japon. Je me suis inspiré d'un module architectural pour démarrer. Parce que l'architecture m'intéresse. Parce que là, je s'occupe des lieux, s'occupe des espaces. Quand je dis module, un Jauleru, c'est une demi-case qui accueille le visiteur quand on vient sur une concession. Au Japon, j'ai repris le plan d'une ferme traditionnelle japonaise parce que c'est un espace, c'est pas seulement un espace pour s'abriter, quoi. C'est aussi là un espace mental qui a ses règles, qui a ses lois. Et en reprenant ce plan, ça me permet de le remettre en valeur s'il a disparu, par exemple. Et l'architecture m'aide beaucoup, oui.
Et alors, c'est un espace à la fois social, et en même temps, donc, il y a ce lien, peut-être, d'un espace mental, justement, qui est en train de se créer dans l'esprit du marcheur, puisque vous opposez des sculptures, des pièces, à des distances qui peuvent s'engendrer sur des kilomètres. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a un rapport à la marche et à ce qui se constitue dans l'esprit lorsqu'on marche et qu'on parcourt une distance à pied.
Alors effectivement, sur certaines pièces, comme celle qui est en Ardèche, qui est sur un sentier, qui est un sentier pédestre, donc j'ai fait une pièce en deux parties qui sont très différentes, dans des situations complètement différentes, mais avec le même arbre. Donc je voulais opposer deux situations différentes, à la fois de l'individu et du marcheur, au fond d'une vallée et sur une crête, quoi. On est à la fois on est replié près d'une source, on est dans une sorte de, et dans un espace complètement ouvert, fantastique. Et un peu pour montrer qu'on est toujours un peu constitué de ces deux choses-là. Et mais il faut ces 2 heures ou 3 heures de marche. C'est pas une très grande marche non plus, mais c'est une œuvre dont il faut mettre ses chaussures de marche et passer 3 heures à marcher pour la percevoir complètement, quoi.
Peut-être rentrer vers les ateliers intérieurs. Là, vous avez des clous.
Oui, j'ai des gros tire-fonds, des tronçonneuses, des coins, des masses. On est loin du dessin, là. On est sur les gros outils, le gros outillage, des sangles, un fenwick, des treuils, des casques anti-bruit. Parce qu'il y a un côté, il y a un rapport physique violent qui m'intéresse aussi. Que j'imaginais pas précédemment, mais dont j'ai besoin, quoi. Il faut que cette œuvre, elle vienne, les arbres sont fendus, arrachés en deux, mais plus ça va, plus j'aime le. Au début, je me faisais aider, et plus ça va, les pièces qu'on voit, toutes les pièces que l'on voit là, je les ai toutes fabriquées tout seul, complètement tout seul. Et cette longue confrontation avec l'arbre, le fendre, le manipuler, le redresser, et physiquement, que ce soit difficile, est pour moi très important. Ça me permet de prendre du recul par rapport à ce que je suis en train de faire. Ça me permet d'exister vraiment par rapport à ce que je suis en train de faire. D'avoir vraiment l'impression aussi de faire quelque chose, de physique me donne le sentiment de faire la chose complètement, de ne pas être en dehors.
Vous les brûlez pour donner un noir
Pour avoir le noir, je les brûle, je fais du feu, je les roule dans le feu, je les passe au feu avant de subir le traitement. C'est pour ça que ça permet aussi de garder la couleur.